bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente, Yves Deangeli, et pour m'accompagner aujourd'hui, Fred, membre de l'Astroclub du Marsan.
Bonjour à tous.
Lors de nos dernières émissions, nous avons levé le voile sur les connaissances que nous avons actuellement sur notre univers. Nous allons maintenant nous intéresser aux planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil, les exoplanètes. D'une vue de l'esprit, aux observations, il a fallu accepter que nous n'étions pas forcément une exception dans notre univers. Les visions géocentriques de notre environnement ne pouvaient accepter qu'il existait autre chose ailleurs. La Terre était au centre de tout, l'importance de l'homme et toutes les croyances qui allaient avec. Exoplanète veut dire une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil.
Du coup, c'est une définition nouvelle, mais qui en a parlé en premier ?
Dès l'Antiquité, on retrouve Épicure, un philosophe grec, qui expose son idée de l'existence d'une infinité de mondes. Il a dit « ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans notre univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. » Bien plus tard, on va retrouver au XVIe siècle le philosophe et astronome italien Giordano Bruno, qui, en s'appuyant sur l'héliocentrisme de Copernic, a été le premier à affirmer, sans vraiment une démonstration physique, que d'un point de vue philosophique, il était donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres que nous voyons tourner autour du soleil et qui nous est proche. Un siècle plus tard, Fontenelle, dans l'entretien sur la pluralité des mondes, qui était un écrivain et scientifique français, déclare que les étoiles fixes sont autant de soleils et que chacun éclaire un monde. Et on va retrouver tous les astronomes qui vont, petit à petit, chacun à leur tour, donner un petit peu leur vision de cette possibilité d'avoir des planètes autour d'autres étoiles. On peut citer Newton, qui dit que si les étoiles fixes sont des centres de systèmes semblables, alors ils ont tous construit selon le même concept, c'est-à-dire le nôtre. Mais c'était pour l'instant que des idées, que des notions philosophiques, et donc il restait la part à trouver le moyen vraiment de prouver que ces mondes existaient réellement. Alors Huygens, un néerlandais, a commencé à y réfléchir un petit peu et à essayer de trouver des méthodes ou trouver des instruments pour observer un petit peu ces planètes qui étaient lointaines. Bon, il était le découvreur des anneaux de Saturne, donc il était habitué en fait à faire ces recherches-là. Et donc Huygens a proposé des théories. Mais il a fallu attendre quand même Edwin Hubble, qui est connu pour ses études sur les galaxies, sur l'expansion de l'univers. Donc lui, il a simplement dit que comme la communauté scientifique suppose depuis longtemps que les étoiles sont des soleils et que le soleil héberge des planètes, alors il est fort probable que les autres étoiles hébergent aussi des planètes. Donc tout le monde, il y avait un consensus un petit peu scientifique pour dire qu'effectivement ça devait être une réalité, mais ça n'a jamais été confirmé à cette époque-là. Donc il a fallu attendre, tout le monde a été un petit peu de son côté, de sa théorie, l'amélioration des instruments d'observation, les nouvelles techniques d'observation, pour essayer de se rapprocher le plus possible de cette découverte. Mais il faudra quand même attendre 1995 pour que deux chercheurs de l'Observatoire de Genève, donc Michel Mayor et Didier Queloz, découvrent à l'Observatoire de Haute-Provence un premier objet qui était sans nul doute une planète qui tournait autour d'une étoile du type solaire. C'était une planète géante, un Jupiter chaud, qu'ils ont nommé 51 Pegasi B. On donne des noms en fonction de l'étoile autour de laquelle on trouve. Et donc c'était la première découverte réelle d'une planète.
Mais ça a mis énormément de temps. Pourtant, on disposait déjà de lunettes au XVIIe siècle.
Oui, et quelque part c'est normal parce que les instruments qu'on utilisait pour l'observation de notre ciel, elles permettent de voir des objets qui sont relativement proches de nous, mais étant donné que ces objets-là sont à côté d'autres étoiles qui sont très éloignées de nous, eh bien c'était très très compliqué. Et il faut imaginer que voir une planète autour d'une étoile, c'est comme voir la lueur d'une bougie qui est posée à côté d'un phare de voiture, et ça à des dizaines de centaines de kilomètres. Donc ça devient très très compliqué de faire la différence entre les deux lueurs. Donc avant cette découverte-là, il y a eu beaucoup de fausses découvertes. On pensait avoir vu une réaction d'une étoile, un mouvement, et on s'est dit il y a quelque chose qui tourne autour, il y a un truc qui tourne autour, mais on n'a jamais pu prouver tout ça, donc il y a Il y a eu beaucoup, beaucoup de fausses découvertes. Et c'était des vrais objets stellaires, mais ce n'étaient pas des planètes.
Mais qu'est-ce que c'était alors ?
Alors, principalement, ce qu'ils ont trouvé, c'était c'était ce qu'on appelle des naines brunes. Il y avait beaucoup de naines brunes qui avaient été trouvées. Alors, la naine brune, c'est quoi ? C'est soit une grosse planète, soit une étoile qui n'a pas démarré. En fait, on se situe dans la gamme où si on est au-delà de 80 fois la masse de Jupiter, il y a assez de matière pour que l'étoile démarre. Donc dans ce cas-là, ça sera une étoile. Si on est entre 13 masses et 80 masses, dans ces cas-là, ben, on va se retrouver sur une étoile qui est avortée, ou une grosse planète géante, mais une étoile qui n'a pas assez de matière pour démarrer. Donc c'est ce qu'on appelle une naine brune. Et donc très souvent, ce qu'on trouvait, ce qui avait été montré, c'est que c'était effectivement des naines brunes, ce n'était pas des planètes. Donc on estime qu'en dessous de 13 masses Jupiter, ça peut être considéré comme une planète géante. Donc il faut estimer la masse pour valider l'état d'une planète. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir une interaction d'un objet stellaire avec une étoile, mais en calculant sa masse, on peut déterminer est-ce que c'est vraiment une planète ou alors est-ce que c'est une naine brune ou un autre objet qui est autour. Donc l'idée principale de cette recherche d'exoplanète, c'est pas forcément d'y aller, hein. C'est pas forcément de trouver une planète Terre bis pour, une fois qu'on aura tout détruit ici, qu'il faudra trouver une solution ailleurs. L'idée, c'est simplement, comme toute la recherche scientifique, hein, on a une théorie, nous, pour le fonctionnement de notre système planétaire. Est-ce que ça marche partout pareil ? Est-ce que notre théorie, elle est vraiment efficace ? Est-ce qu'elle est vraiment universelle ? Au début, les premières planètes qu'on a trouvées ne correspondaient pas à celles qu'on trouvait dans notre système solaire. C'était principalement lié à des problèmes de détection. Hein. On voyait vraiment que les gros objets, les petits, étaient très compliqués. Et puis, il y avait énormément de défauts, en fait, sur les mesures.
Et comment peut-on faire, du coup, pour détecter ?
La plus simple, ce serait de les voir directement. Ce serait très bien de pouvoir voir directement la planète, sauf que ce n'est pas forcément possible, parce que ces planètes-là, visuellement, vues depuis la Terre, l'angle de vision par rapport à l'étoile est très très faible. Et il y a un élément qu'on appelle, c'est la résolution de l'instrument de mesure. Quand même en prenant les grands télescopes, les très très grands télescopes qui sont au Chili, on a des mesures, un moyen de résolution sur deux points lumineux qui est relativement faible. Donc ça veut dire que soit on peut détecter facilement des planètes qui sont loin de leur étoile, mais dans ces cas-là, elles vont être très faibles, donc on ne pourra pas les imager, parce qu'il y aura très peu de lumière qui va repartir. Soit on a des planètes énormes qui sont très proches de l'étoile, avec beaucoup de lumière qui sortent, mais avec le risque qu'elles soient noyées dans la lumière en fait, de l'étoile. Alors il y a des solutions qui ont été proposées pour la vision directe, c'était le coronographe. Alors un coronographe, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, on va mettre devant l'instrument d'observation, on va mettre un petit cache, qui va cacher en fait l'étoile. Donc on va réduire forcément la puissance lumineuse de l'étoile, et donc le petit point lumineux qui sera à côté, eh bien lui on pourra le discerner, on pourra le voir. Alors on a trouvé la première planète, c'était en 2009 qu'on a trouvé en vision directe. C'était une équipe, c'était une astronome française, Anne-Marie Lagrange, qui a trouvé une première étoile autour de Beta Pictoris. Elle était revalidée en 2014 et 2018, mais c'était la première fois qu'on arrivait à discerner visuellement une planète à côté d'une étoile. Bon, c'était une énorme planète, hein, 10 fois Jupiter, des températures à 1200 degrés, donc on voyait que c'était une étoile qui était très très jeune, un système très jeune, donc encore beaucoup de température, donc relativement facile, on va dire, à cibler et à viser. Donc on a détecté à peu près actuellement 150 exoplanètes avec cette méthode-là, qui vont entre 1000 et 10 000 fois la masse de la Terre. Et elles sont relativement éloignées de leur étoile, justement pour ce problème de résolution angulaire et de facilité de détection. Alors, c'est vraiment limité à un type de planète particulière et des planètes qui sont principalement géantes. Donc il y a des projets qui ont été mis en place, dont le projet Starshade, où en fait on va mettre un télescope dans l'espace et on va mettre une autre sonde, un autre satellite qui lui sera un coronographe et il pourra donc limiter la puissance lumineuse de l'étoile et ça nous permettra en plus de nous affranchir de l'atmosphère terrestre, donc on aura des meilleures qualités de vision.
Mais du coup, pourtant, moi j'ai vu des belles images de ces mondes.
Oui, mais malheureusement, même si elles sont belles, ce ne sont que des vues d'artistes. C'est-à-dire que certaines sont basées sur des données scientifiques, donc on pourrait dire que c'est à peu près réaliste, ce serait à peu près ça, si on se déplaçait là-bas, ce serait un peu ça. Et il y en a beaucoup, c'est vraiment des vues d'artistes pour faire du beau, du joli. Et je pense que si on va là-bas, on sera un peu surpris. Si jamais on y va.
jamais vu cette drôle de lumière. Je dois retrouver ces petits pétales et les rapporter à ma station spatiale. Je me suis perdue dans l'espace. Dans cet univers où sont ces pétales, ouh, peut-être au bout du ciel, cherchant une étoile métallique essentielle. Je me suis perdue dans l'espace, bel et bien perdue dans l'espace. Je me suis perdue dans l'espace, bel et bien perdue. Trouver bien quel est le chemin, mais en attendant, c'est très amusant. perdu dans l'espace, je me suis perdu dans l'espace. Perdu, one, two, three, four. Perdu dans l'espace, bel et bien perdu.
Nous voilà de retour donc pour continuer à explorer un petit peu ces mondes ailleurs, ces exoplanètes qui sont autour d'autres étoiles. Donc on a déjà parlé de la première méthode de détection qui était la plus naturelle, c'est-à-dire la méthode visuelle. C'est pas très très facile, il y a des contraintes techniques et des contraintes matérielles énormes. Mais il y a d'autres méthodes en fait qui vont nous permettre de pouvoir un petit peu identifier ces planètes. La première, ce serait la méthode des transits. C'est une méthode qui est, on va dire, relativement... facile à comprendre, c'est-à-dire que la méthode du transit, on va regarder lorsqu'une planète passe devant une étoile, forcément elle va faire une petite éclipse, et cette éclipse, eh bien, elle va faire baisser un tout petit peu la luminosité de la planète, et donc cette baisse de luminosité, on peut la détecter, il suffira de faire des images un petit peu du ciel, et pour chacune des étoiles, on va regarder à quel moment on aura une baisse de luminosité. Alors les amplitudes ne sont pas très fortes, hein, si on prend au niveau du système solaire, si un extraterrestre essayait de nous regarder pour voir s'il y avait du monde autour du Soleil. En fonction de la taille de la planète, la baisse est plus ou moins importante. Hein. Si on prend Jupiter, on baissera de 1% la luminosité du Soleil. Et Jupiter, c'est quand même la planète la plus grosse. Si on parle de la Terre, on baissera 0,008%, c'est-à-dire à peine détectable. Donc, effectivement, on se rend compte aussi rapidement que cette méthode des transits, elle sera vraiment utile sur les planètes géantes. Elle sera très facile à utiliser sur des planètes géantes, mais beaucoup plus compliqué sur des planètes du style de la Terre. Il y a un autre inconvénient, c'est que faut qu'on soit pile dans l'axe de rotation, l'axe de l'orbite de la planète autour de son étoile. Si on est un peu décalé, il n'y aura jamais d'éclipse. Et s'il n'y a pas d'éclipse, on ne verra pas qu'il y a vraiment une étoile qui est présente. Donc la planète, l'exoplanète, on vous a parlé tout à l'heure. Bon, l'équipe Mayer-Queloz en avait trouvé une autre par cette méthode-là. En 99, ça fait une baisse de 2% pendant quelques heures. Donc ils ont vu cette baisse, ils ont continué de faire de l'observation sur cette étoile et ils ont vu qu'en gros, une semaine plus tard, on avait de nouveau cette même baisse. Donc étant donné qu'on a une baisse de luminosité, si elle est cyclique, c'est parce que l'objet est en rotation autour de l'étoile. Autrement, ça pourrait être un astéroïde ou n'importe quel autre objet qui passe dans le champ de vision entre nous et l'étoile, et il passera forcément qu'une seule fois. Et donc on ne pourra pas avoir cette confirmation. Donc le rayon de la planète, c'était à peu près Jupiter, cette planète-là qu'ils ont trouvée, donc une taille de Jupiter. Et par contre, elle était très très proche de son étoile, à peu près un 1/20 de la distance Terre-Soleil. Donc ça fait une étoile hypermassive qui se retrouve très proche de son étoile. Donc ça remet aussi un petit peu en cause notre façon de penser, de création de notre système solaire. C'est ce qui a fait apparaître, on en avait déjà parlé sur une autre émission, les phénomènes des transits où en fait les planètes où elles sont actuellement dans notre système solaire n'étaient peut-être pas là tout le temps au même endroit. Donc on reste sur des planètes proches de l'étoile, de masse importante, donc globalement ce ne sont pas des planètes habitables, parce que les températures sont vraiment énormes. Hein. L'autre problème, ça allait sur l'étoile qu'ils ont trouvée, parce qu'une semaine après, elle est repassée devant, donc c'était très simple. On avait un cycle de semaines, elle tournait très vite autour de son étoile. E.T. qui nous regarde de loin, il va voir une baisse de luminosité très très faible de 0,08% du passage de la Terre devant son étoile, et il faudra qu'il attende une année pour que ça se reproduise. Si la planète a un cycle à une année qui est très très longue, eh bien ça va complexifier encore les études. Donc on a envoyé une mission qui était la mission Kepler, qui était une mission de surveillance. On a pris une petite zone qui est située dans le Cygne et on a surveillé 150 000 étoiles pendant un certain temps. Et on faisait des mesures tout le temps pour vérifier si dans ces 150 000 étoiles présentes, il y avait ces baisses de luminosité. Et donc, ce qui a résulté du travail de cette sonde Kepler, de ce télescope Kepler, c'était une détection de 2500 exoplanètes confirmées. C'est-à-dire qu'il en avait vu beaucoup plus, il était à 7 ou 8 000 qui ont été détectées. Et après, il a fallu le temps de les reconfirmer par un autre moyen. Donc, vraiment validé sur cette mission Kepler, 2500 exoplanètes. Alors, cette méthode, elle nous permet aussi de détecter des systèmes multiples. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détecté la rotation de la planète autour de l'étoile, normalement ça devrait être régulier, et si on a un autre objet qui tourne, une deuxième planète par exemple, elle va modifier à peine le cycle de rotation de la planète autour de l'étoile. Et si on voit une petite différence sur ce cycle de rotation de la planète autour de l'étoile, ça veut dire qu'il y a un autre corps à côté qui la freine et l'accélère. Donc on peut même détecter des systèmes multiples.
Pas très facile, mais efficace apparemment. Mais on ne peut pas détecter toutes les exoplanètes comme ça.
Mais non, parce que justement, il nous faut qu'on soit dans des conditions particulières d'alignement. Si on peut accepter un tout petit angle, on va dire, qui permet d'avoir... On n'est pas obligé d'être parfaitement, parfaitement dans l'axe, mais dès qu'on a un angle un petit peu supérieur, on ne les voit plus. Donc il y a d'autres techniques qui sont utilisées. On a l'astrométrie, par exemple. L'astrométrie, on prend une étoile, on mesure l'étoile, et en mesurant l'étoile, on mesure sa position précise. Et s'il y a un objet qui est situé à côté, la rotation de cet objet va la faire se déplacer latéralement un petit peu. Pour ça, il faut qu'on voit. Tout à l'heure, on regardait l'étoile dans l'axe de rotation de la planète. Là, il faudrait qu'on soit perpendiculaire à l'axe de rotation. Et donc, l'objet, de temps en temps, quand il va passer d'un côté de l'étoile, il va attirer l'étoile. Et quand il passera de l'autre côté, il l'attirera dans l'autre côté. Et le petit mouvement latéral qu'on va détecter de cette étoile, eh bien, si on peut le quantifier, on peut estimer quelle est la masse qui pourrait faire changer ça. Et avec la fréquence de vibration, la fréquence de déplacement de l'étoile, on pourrait déterminer, en gros, à la distance, à quelle distance elle se trouve. On ferait un couple masse de l'étoile plus distance qui nous donnerait cette petite vibration. Donc le gros problème, c'est si les planètes sont petites autour de l'étoile, le mouvement est très faible. Donc il faut des satellites qui sont en capacité de faire des mesures hyper précises. Donc il y a plusieurs satellites qui ont été envoyés. On peut citer Hipparcos dans les années 90, qui a fait des mesures d'étoiles. On avait une précision d'un milliseconde d'arc. Alors quand on parle de seconde d'arc, quand on prend un degré, si un degré, on le divise en 60, on a une seconde d'arc. Donc vous voyez qu'un degré, c'est déjà pas beaucoup. Donc divisé par 60, c'est pas beaucoup. Et on est de l'ordre du milliseconde d'arc. On a envoyé après une autre sonde, c'était le satellite Gaïa, qui lui descendait à 7 microsecondes d'arc. Donc là, on commençait à avoir vraiment des éléments précis. Et Gaïa nous a fourni de l'astrométrie, des tonnes et des tonnes de données qu'il faut encore exploiter parce que c'est très très long. Il y avait énormément d'étoiles surveillées. Et c'était très très long.
Mais pas simple. Hein. Espérons que Gaïa apporte de nouvelles détections.
Oui, parce que c'est une méthode qui marche pas mal, hein, c'est-à-dire qu'on est relativement précis, et plus ça va aller, plus on aura des pouvoirs de résolution de nos satellites qui vont être importants, et on pourra détecter le moindre petit mouvement. Donc on a bon espoir là-dessus. Il y a une autre méthode qui ressemble un petit peu, hein, c'est la méthode de la vitesse radiale. Donc là, on se retrouve, on n'est plus perpendiculaire à l'axe de rotation. On peut être dans le plan de rotation de la planète autour de l'étoile. On n'est pas obligé d'être parfaitement aligné, c'est pas grave, hein. Mais on va retrouver le même phénomène, c'est qu'un petit corps qui va tourner autour d'une étoile va faire bouger l'étoile. Et comme on va mesurer en fait cette étoile, eh bien on va pouvoir avoir la lumière, on aura son spectre. Et son spectre lumineux, ben, on va voir qu'il va évoluer en fonction de l'étoile. Si elle s'en va, elle s'éloigne de nous, elle se rapproche de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Piso. Et on pourrait dire que par exemple, là, le couple Terre-Soleil, enfin, la Terre a une influence, elle fait bouger le Soleil de 9 cm par seconde. Donc c'est à peine, hein, il bouge à peine, mais il bouge quand même. Et Jupiter fait bouger de 13 mètres par seconde, donc plus facilement détectable. Et donc en regardant le spectre, hein, l'effet Doppler-Piso, on va dire facilement, c'est vous prenez le camion de pompier ou l'ambulance, quand elle s'approche de vous, vous avez le son qui devient de plus en plus aigu, parce que la fréquence augmente. Et quand elle s'éloigne de vous, ben, ça devient de plus en plus grave, parce que l'onde, elle met plus de temps à vous arriver. Et on va faire exactement cette mesure-là, en fait, sur les soleils. C'est-à-dire qu'on va retrouver sa carte de visite, on va retrouver son spectre. Et si le spectre, on va détecter quelques raies particulières dans cette lumière, et on va voir comment elle bouge en avant, en arrière. Et là, on pourra déterminer, globalement, quelle est la taille de l'objet qui fait remuer, en fait, notre étoile. Et donc, on utilise un spectrographe qui va permettre de vraiment cibler le prisme, le spectre de couleur, le spectre de l'étoile, parce que chaque étoile a une signature spectrale spécifique en fonction de son atmosphère, de sa composition. Et donc il faut être hyper précis. Et c'est avec cette méthode-là en fait que Major Kellos ont découvert 51 Pegasi B. C'est-à-dire qu'ils ont pu, avec un spectrographe qu'ils avaient construit eux-mêmes, qu'ils avaient mis au point eux-mêmes, ils ont pu être suffisamment précis pour détecter ces petites variations. Donc l'étoile qu'ils ont trouvée, en fait, c'était une étoile qui provoquait un déplacement de l'étoile de 50 mètres par seconde. Donc c'était une planète à peu près la moitié de la taille de Jupiter, qui avait une année d'environ de 100 heures. C'est-à-dire que toutes les 100 heures, ils retrouvaient le cycle de décalage du spectre. Et donc ils ont pu vraiment quantifier cette planète. Le petit biais qu'on pourrait avoir, si on n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de rotation, ben, au lieu d'avoir une valeur réelle, si on est un peu incliné, on aurait une valeur minimale. Donc on va dire que cette technique-là nous permet de donner la valeur minimale de l'objet. A noter que Major et Kellos ont été prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte. Donc ça marche sur des étoiles soit très massives et proches de leur étoile, et il faudrait des planètes à courte période pour qu'on puisse refaire des mesures, parce que contrairement aux autres, où on surveillait la totalité du ciel et puis on regardait dans un petit coin du ciel s'il y avait des baisses de luminosité, là, on est obligé de se fixer sur une étoile. On ne peut pas laisser un spectrographe pendant des années sur la même étoile. Il y a d'autres étoiles à aller chercher un petit peu ailleurs. Donc, des spectrographes, ils s'améliorent de plus en plus. Hein, quand on prend le spectrographe d'Elodie, donc de l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, qui a servi à Kellos, on était à 15 mètres par seconde en minima de détection. Et maintenant, sur Aleso, on a Espresso, qui nous descend à 1 mètre par seconde. Donc, on a vraiment une finesse de détection qui pourra être de mieux en mieux.
Du coup, avec toutes ces méthodes, nous pouvons tout voir.
Oui, avec ces méthodes-là, on peut tout voir, quasiment. Le problème, c'est que pour valider une exoplanète, il faut qu'elle soit vue par plusieurs systèmes. C'est-à-dire qu'on peut la valider, on peut la voir en vitesse radiale, il faudra la valider par une autre technique, pour être sûr que ce n'est pas un biais de mesure. Donc on aura toujours ces autres types de mesures qui sont possibles. Il y a quelques autres techniques qui sont utilisées. Il y a la micro-lentille gravitationnelle. Donc là, on vient à partir de la théorie d'Einstein qui dit qu'une masse courbe l'espace-temps et donc une lumière peut être déviée. Et donc, on pourra se retrouver, si on a un corps massif qu'est l'étoile, eh bien, la lumière qui nous arrive, qui passera, qui vient d'un autre astre derrière cette étoile qu'on veut mesurer, eh bien, elle va être courbée. Donc, on aura une augmentation, une amplification de la lumière. Et si on a une petite planète qui tourne autour, eh bien, on aura une augmentation de l'étoile de fond avec un petit pic dessus qui marquera la réflexion de la planète, de la lumière qui vient derrière elle. Donc là, c'est un moyen qui nous permet aussi de quantifier une planète qui tourne. Le seul souci, c'est que il faut qu'on soit parfaitement en alignement, et ça ne marche qu'une fois, parce que l'alignement, il va vite se décaler. Mais c'est un élément qui permet à la limite de donner un signal pour dire, il y a un truc là, et après, on pourra pointer d'autres instruments dessus pour vérifier. Il y a une autre technique, c'est le timing des pulsars. Donc ça, c'est pour des étoiles vraiment spécifiques. Un pulsar, c'est une étoile qui est en fin de vie. Hein, donc elle tourne très 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 vite. Et si on a un corps qui est à côté, ça peut affecter cette vitesse de rotation du pulsar. Et donc on pourrait aussi quantifier un corps qui serait autour. Et la dernière, c'est l'éclipse de rayon X. Donc là, c'est un élément qui n'est pas tellement utilisé dans notre galaxie. Hein, c'est vraiment, on l'a utilisé dans la galaxie proche, la galaxie d'Andromède. Une galaxie où les astres émettent en rayon X et on a vu un objet qui est passé devant une source de rayon X de la galaxie d'Andromède, donc qui est très loin de nous. Voilà. Et on a pu dire, il y a effectivement, autour de ce point, il y a un objet qui tourne. C'est la seule détection qu'on a fait en dehors de notre galaxie, puisqu'il faut dire qu'en fait, toutes les exoplanètes et tout ce qu'on voit sont dans l'environnement proche de notre système solaire. Notre galaxie, qui est la galaxie de la Voie lactée, en gros, elle fait un rayon de 52 850 années-lumière. Nous, on est situé dans un petit coin, une petite partie de cette galaxie. Et tout ce qu'on voit dans notre ciel ne sont que des éléments qui sont proches de nous. Donc toutes les détections qu'on fait d'exoplanètes sont des exoplanètes qui sont vraiment très proches de nous. Donc il y a à peu près entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. On estime qu'il y a à peu près 400 milliards, il devrait y avoir à peu près 400 milliards de planètes dans notre galaxie, d'exoplanètes dans notre galaxie. Pour l'instant, on est à 595 confirmés. Dans 4160 systèmes solaires, ça veut dire qu'on a des systèmes solaires multiples, et il y en a 107 qui sont en zone habitable. Alors, une zone habitable, c'est quoi? C'est une zone qui est autour de l'étoile, dans laquelle, dans cette petite zone-là, l'eau peut être liquide et le rester. Si on est proche de l'étoile, elle est en mode gazeux. Si on est plus loin, elle est en mode solide. Et on sait qu'il faut un solvant pour développer la vie. Donc le fait de trouver des zones qui sont dans des zones où l'eau est liquide, potentiellement on peut dire que si la vie pourrait émerger sur cette planète, ben, ce serait l'endroit idéal, elle pourrait le faire. Donc on a des recherches pour essayer de trouver vraiment les éléments qui sont dans les zones habitables. Donc on va essayer de voir, hein, parce qu'il n'y a pas que l'eau, hein, il y a aussi des phénomènes, il faut de l'atmosphère, il faut un champ magnétique, il y a différents éléments. On arrive à mesurer certaines atmosphères d'exoplanètes, par cette méthode des transits, quand l'exoplanète passe, va rentrer en éclipse. Pendant un court instant, la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de la planète. Et donc on peut quantifier hein, la qualité de l'atmosphère de la planète, la densité et ses composés. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de moyens de rechercher des exoplanètes. Des exoplanètes, il y en a plein partout. Le problème, c'est de les confirmer et puis d'essayer de comprendre un peu plus le mode de fonctionnement pour que nous, on puisse comprendre comment fonctionne notre système solaire et comment il s'est créé. Donc voilà, on a fait le tour des exoplanètes. Hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Les scientifiques ont encore pas mal de travail pour réussir à vraiment nous en apprendre encore beaucoup plus sur notre environnement. Et justement, lors de la prochaine émission, on fera le point un petit peu sur les actualités de l'astronomie, sur quelques points, quelques découvertes du télescope spatial James Webb et un petit point sur l'exploration de la Lune, puisqu'il y a eu quelques actus depuis le début de l'année. Faire le point de où on est et puis surtout il y a quelques actus qui sont en lien avec les émissions qu'on a fait précédemment et qui vont permettre de lever un peu plus le voile sur ce qu'on avait déjà expliqué précédemment. Donc retrouvez-nous en podcast sur le site de la radio MDM ou alors vous pouvez passer nous voir hein, le mardi soir ou le vendredi soir pour partager le ciel, surtout qu'en ce moment il y a quelques petits objets qui sont très sympas à voir dans le ciel. La météo a l'air de nous laisser de temps en temps tranquille, donc on peut profiter un petit peu du ciel. Et toutes les infos, vous les retrouverez sur la page Facebook de l'Astroclub du Marsan. Et je vous souhaite bon ciel à toutes et à tous et à très bientôt. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.